sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, c'est le mercredi 16h, Ferry Club, Radio Libertaire, normal.
Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Non, toujours pas.
On se bat!
Là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décorerait notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'Hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Ah, Charles Baudelaire pour commencer l'année. Pour terminer l'année. Léo Ferré, bien évidemment. Et puis, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, nous sommes le temps. Ouais, vous avez remarqué, hein, ils nous ont bien fait comprendre là, qu'on était le temps. Alors déjà, énormément d'appels au standard pour savoir si un message hobby et torbi va être délivré pendant cette émission. Absolument pas, hein, qu'ils crèvent. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour bien sûr une émission consacrée à Léo. C'est... Le thème de l'émission cette semaine sera de l'ordre de... C'est difficile à définir vraiment parce que c'est tout autant de l'ordre de l'historique, hein, puisque je vais vous proposer dans quelques instants une petite émission un peu particulière. Historique, non pas l'émission, hein, non pas le Ferré Club historique, mais le document que je vais vous diffuser tout à l'heure est de l'ordre de l'histoire, quoi, hein. Et puis c'est aussi de l'ordre de la douceur, de la tranquillité, de la flânerie. Ouais, il est question de flânerie exactement. Je vais vous proposer dans quelques instants une émission qui a été réalisée en 1957, qui est présentée par quelqu'un qui s'appelle Michel Polak, qu'on a retrouvé un peu plus tard sur la télévision, quand la télévision existait encore. Et il propose une émission, il proposait une émission, alors je ne sais pas du tout dans quel cadre, j'ai regardé un petit peu, je n'ai pas réussi à trouver d'informations particulières concernant cette émission. Elle s'appelle « Le flâneur du dimanche ». Aujourd'hui, c'est un peu dimanche, hein, ça ressemble à un dimanche. Je ne sais pas si vous avez regardé la sociale, si vous avez par la fenêtre ou si vous y êtes mêlé, mais ça ressemble un peu à un dimanche. Alors on est dans une sorte de flânerie du dimanche, là, et cette émission qui ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'elle est de 1957, elle était proposée, alors je ne sais pas du tout dans quel cadre c'était. Est-ce que c'était une émission télévisée, 57, ouais, c'est pas impossible. Est-ce que c'était une émission de radio, peut-être plus probablement, hein, je ne sais pas. Le flâneur du dimanche, alors si vous connaissez cette émission, vous pouvez m'appeler, hein, 01 43 71 89 40 pour me faire part de vos connaissances en la matière. Je les restituerai à l'antenne, non pas pendant cette émission parce que l'émission là que je vais vous passer est d'un bloc, mais en revanche la semaine prochaine, oui, ce sera fait avec exigence, bien évidemment, comme de faire ce peu, quoi, hein, autant que possible, quoi, l'exigence. Alors, c'est une émission que j'ai dans un coin, mais que vous aurez bientôt, vous aussi. Vous aurez bientôt accès à cette émission de 57. Je vous en dis pas plus, même si certains et certaines d'entre vous peuvent commencer à avoir une petite idée, parce que j'en parle beaucoup. La seule chose que je peux vous recommander, c'est d'aller très régulièrement faire un tour sur le site leo-ferré.eu, bien évidemment. Et là, à un moment ou à un autre, vous finirez par comprendre que bah, vous aussi, bientôt, vous l'aurez, ce petit document. Dedans, ça date de 57, donc on a effectivement... Bien évidemment, le répertoire, le premier répertoire de Léo avec des chansons qui datent d'avant 1957, hein, de fait, bien évidemment. Il ne va pas nous chanter l'espoir, quoi, si tu veux, en 57, c'est difficile. On va écouter, il y aura, je vais vous les donner les titres qui vont passer, il y aura Monsieur Mon Passé, Le Temps du Plastique, Les Amoureux du Havre, qu'on n'entend pas souvent, qui sera la version originale, c'est-à-dire la version qu'il chante lors de cette émission. Angleterre, le poème. Brumes et pluies et Java partout qui sera elle aussi une version originale, c'est-à-dire que dans le document que j'ai et que vous aurez bientôt, certaines des chansons ont été coupées, donc je les ai reconstituées, j'ai reconstitué cette programmation, si vous voulez, je pense qu'était diffusée par Polak et par ses équipes les versions originales de Léo, et tout le monde allait vaquer à ses occupations pendant ce temps-là, je sais pas. Donc ce qui a crédite apparemment quand même l'idée que ça serait une émission de radio plutôt. Donc elles sont reconstituées avec des versions classiques, si ce n'est que j'ai ajouté à la fin des Amoureux du Havre, grâce à Raphaël, à qui je passe tout de suite un bonjour, mais je vais dire un petit mot dans quelques instants à propos de toute l'équipe du Ferré Club, grâce à Raphaël, qui m'a transmis, alors qu'il avait lui-même récupéré par un collègue ferréen, je ne sais pas exactement, je ne connais pas son nom, si Raphaël t'es à l'écoute en ce moment, je sais que tu les écoutes plutôt en différé en ce moment, donc, mais éventuellement tu me passeras le nom. C'est une version des Amoureux du Havre qui a été chantée à l'Élysée Montmartre, à la salle de spectacle, l'Élysée Montmartre à Paris, qui se trouve au métro Anvers. Un spectacle de Léo, hein, qui a eu lieu le 30 mai 1985 et... Plutôt que de chanter Les Amoureux du Havre, il fait quelques petites évocations qui sont tout à fait savoureuses. Donc je les ai ajoutées à cette programmation. Oui, à cette programmation, je dis bien. Angleterre, comme vous l'entendrez dans l'annonce faite par Michel Pollack, le texte Angleterre est récité par Madeleine Rabereau lors de cette émission. Donc là, c'est pareil, je vous proposerai également la diffusion de cette récitation au cours de cette émission. Voilà. Alors c'est donc la dernière émission de la décennie, c'est quand même pas rien effectivement, hein, c'est la DER. Dernière émission de l'année 2019. Donc je voulais tout simplement, comme d'habitude dans cette émission, c'est très régulier mais c'est important de le faire, je voudrais passer un bonjour et remercier toute l'équipe du Ferry Club. De près ou de loin, vous allez voir que c'est vraiment au sens très large l'équipe du Ferry Club. Je voudrais d'abord remercier les gens qui ont passé l'année 2019 avec nous, hein, à savoir qui sont venus... parler dans cette émission, parler soit de leur rapport avec Léo, soit d'une actualité concernant Léo. Remercier Alaric Perrollier, remercier Patrick Chamblas, remercier Raphaël Dovelos, bien sûr, remercier Patrick Ullmann, remercier Jean Pétrement, et ainsi que Luc Baba, ainsi que Guy Lukowski et Michel Fellner, qui sont chacun venus dans cette émission pour parler d'une manière ou d'une autre de Léo. Et donc un grand merci à eux pour le coup de main durant cette année 2019. Je voudrais remercier également Jean-Marie Dzouba, Francis Danlois et Loïc Duchesne qui étaient dans le coin lors de certains de ces entretiens, notamment à Liège. Bon, un grand merci à Renan, un grand merci à Guillaume qui sont là, qui continuent d'être là régulièrement. Donc c'est bien sympa de leur part. Voilà, donc je vous embrasse bien, chers camarades. Je voudrais envoyer un salut particulier également à Gérard qui m'a passé un petit coup de fil la semaine dernière. C'est le seul à qui j'ai pu parler la semaine dernière. Désolé pour la semaine dernière, l'émission était un petit peu chamboulée, on va dire. Merci Gérard pour ce petit coup de fil et puis au plaisir de se reparler à l'occasion. Je voudrais remercier également Patricia qui m'a envoyé un mail très, très chaleureux et du coup je lui passe... merci beaucoup, j'ai été très touché par ce mail. Et du coup, Patricia, un grand bonjour. J'espère que tu vas bien. Remercier également Alain qui lui aussi écoute de manière très attentive et très amicale l'émission, et donc un grand merci à lui. Et puis un dernier merci dans cette petite session, c'est à Marc Châtelier ainsi qu'à toute l'équipe des cahiers Léo Ferré pour les bons mots échangés ces derniers jours et puis pour les belles perspectives qui sont ouvertes dorénavant pour l'année 2020 qui vient. 2020, c'est difficile, hein, on y croit. Il y a quelque chose de presque irréel dans cet énoncé, quelque part. Mais c'est bien 2020 qui arrive, hein, c'est incroyable. Un bonjour encore à Daniel de la Guarda. J'espère que 2020 aussi nous permettra de nous revoir, de nous rencontrer plus sérieusement. Je voudrais aussi envoyer un salut chaleureux à François André ainsi qu'à toute l'équipe des Copains de la Neuille pour ce travail remarquable qu'ils accomplissent et pour leur façon de faire front, de se battre. C'est bien, il ne faudra pas lâcher en 2020. De toute façon, tout cela n'est qu'une affaire de combat. Voilà, un merci, un bonjour à Mathieu Ferré, à toute la famille Ferré, ainsi qu'à la famille Gros de Classe. Je voudrais remercier aussi les gens sur les réseaux. Alors, il y a des noms qui reviennent très régulièrement. Je ne vous connais pas, mais je vous remercie. Très régulièrement, vous relayez l'émission et c'est bien sympa. Et puis, également, quelques petits commentaires de temps en temps qui font rudement plaisir parce que, comme je dis très régulièrement, mais ça me semble important de le répéter, la radio est une verticalité de fait. Et c'est vrai que lorsque la modernité met à notre disposition des moyens de communication qui permettent de revenir un peu sur cette verticalité de fait, eh bien ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien parce que peut-être que je ne le dis pas assez, mais cette émission elle est quand même principalement faite pour qu'il y ait de l'échange, pour qu'il y ait de la rencontre, pour que tout cela trouve un écho quelque part chez celles et ceux qui évidemment connaissent Léo, mais aussi et surtout, ça c'est quand même la volonté, celles et ceux qui ne le connaissent pas encore et qui découvriraient Léo d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, sur les réseaux, il y a des prénoms qui reviennent souvent. Alors, je ne vais pas donner les noms, sauf... Ah si, j'ai deux noms. Je passe le bonjour à Elian Levavasseur, que je vois régulièrement passer. Une pensée, du coup, à Nilda Fernandez. Un merci donc aux gens sur les réseaux, Fabrice, André, à Omar, à Bouzid, Michel Desmarais. Salut Michel Desmarais, j'espère que 2020 là aussi sera l'occasion de se rencontrer. Et puis à Xavier aussi qui revient. Voilà, ce sont des prénoms qui reviennent régulièrement, donc l'occasion de leur passer un bonjour. Un grand merci à Monsieur Maxou également pour le soutien tout au long de cette année. Merci à toi, mon camarade. Je voudrais aussi passer deux bonjours à deux personnes de Radio Libertaire. La première, c'est François, professeur Dupont d'Isigny, qui était venu durant cette émission nous parler de son Léo et puis parler aussi de son parcours d'individu libertaire. Et voilà, lui adresser une franche bise. Et puis aux copains de la Pente du Carmel, de la même manière, mais un petit peu moins appuyé. Un grand, grand salut à toi, François. Et puis à Bernard également, à Bernard de Chaurges au bout de la Seine, qui apparemment a décidé d'arrêter son émission sur Radio Libertaire, et ce qui, moi, me fait une grande peine, parce que c'était une émission, Chaurges au bout de la Seine, une émission très importante sur Radio Libertaire, émission emblématique, et puis au-delà de l'émission, c'était Bernard en lui-même, Bernard Carré, quelqu'un d'humainement vraiment remarquable, et puis d'une gentillesse vraiment folle, et au-delà de l'émission, la personne même de Bernard va manquer à la radio. Alors il a l'air vraiment déterminé, je vais faire un petit mail pour en savoir un peu plus, et il a l'air assez déterminé dans son choix, donc bien évidemment, c'est sa liberté d'individu, et elle n'est absolument pas discutable, bien évidemment. Mais dire quand même que cette émission Chaurges au bout de la Seine va manquer à l'antenne de Radio Libertaire, c'est une vraie tristesse que cette émission s'arrête. Alors, je voudrais aussi... je passe un salut à Anne, tiens d'ailleurs, puisque j'en suis à parler de Radio Libertaire. Un salut à Anne, un salut à Jean également, et puis à Laurent Garibian. J'espère que c'est pareil, que 2020 nous permettra de nous rencontrer et puis de mettre enfin en forme les projets que nous avons. Une bise toute particulière à Geneviève, bien sûr, Geneviève, pour ton amical soutien très important. En cette année 2019 et cette décennie 2010 qui s'achève, je voudrais aussi, bien sûr, envoyer d'énormes bises à Chris et Sylvie, puis à Bibou, bien évidemment aussi. Et puis, au-delà des bises, les remercier pour le boulot qu'elles accomplissent d'une manière générale, puis plus précisément pour les superbes émissions qu'elles ont pu produire dans le cadre du Ferry Club. Et je pense tout particulièrement à l'émission qu'on vous a diffusée en juillet dernier, juillet 2019, qui s'intitulait Le chemin de l'enfer, qui était une superbe émission. Émission aussi qui me revient, Voyant par l'oreille, qui était aussi une très très belle émission produite par Chris et Sylvie, que vous retrouvez sur le site leo-ferré.eu, bien évidemment. Il y avait l'émission sur Beethoven, il y avait l'émission sur Léo en hoc, j'allais dire sur Jean Pauverdier, mais Léo en hoc, bien sûr. Voilà, un grand merci à Chris et Sylvie. Et puis la dernière bise, c'est à ma Christiane, que j'embrasse très fort, et elle sait très bien tout le reste. Voilà. Je vais donc vous proposer ce document très intéressant. Alors le son n'est pas top, hein, puisqu'on est en 1957, mais il n'est pas non plus à chier. Ça s'écoute quand même très très largement. Voilà, c'est donc cette émission qui s'intitule, comme je vous le disais, Les flâneurs du dimanche, et qui était présentée par Michel Pollack.
Mise en onde par René Jantet avec la collaboration de Jacques Vaudou. Prise de son, voilà. Marcel Ostalier. Ce soir, les flâneries de Léo Ferré.
Eh bien, ce soir, nos flâneries sont assez tardives, exceptionnellement d'ailleurs, car un auguste flâneur du dimanche est à Rome aujourd'hui, c'est le président de la République, c'est pourquoi Léo Ferré, nous flânons très tard. Eh bien, je vous dis bonsoir maintenant, et je vous demande si vous aussi, vous êtes un flâneur, non pas à Rome, mais à Paris et partout où vous habitez et vivez. Je ne le crois pas d'ailleurs, parce que vous m'avez amené des tas de chansons nouvelles. Vous ne devez pas avoir beaucoup le temps de flâner.
Je vous dis bonsoir moi aussi, et puis, je n'aime pas flâner. Je ne suis pas un flâneur. Je pense que le flâneur est doublé d'un oisif d'abord, et un oisif organisé, intellectuel, n'est-ce pas, qui cherche des trucs dans les magasins, qui cherche des ciels crépusculaires, qui lui rappellent des tas de choses. Moi, je flâne jamais parce que je m'ennuie, j'ai le cafard.
Ah oui, ça vous donne le cafard de n'avoir rien à faire.
Je flâne dans votre émission, c'est ça, oui, ça.
Ça, vous... ça vous suffit. Mais vous n'aimez pas traîner dans les rues, aux terrasses des cafés, par exemple, non?
Non.
Oh.
Non, non, je ne vais jamais au café. Quand je bois, je bois à la maison.
Oui.
Mais si je vais au café, c'est triste aussi.
De voir passer les gens désœuvrés, ça vous donne le cœur?
Non, je ne suis pas un cinéaste, vous comprenez. Je ne cherche pas à cadrer des choses dans la rue.
Et est-ce que vous aimez flâner dans votre passé?
Beaucoup, oui. Avec d'une façon un peu triste aussi, mais enfin, tout de même, on est tellement à ce moment-là à être triste dans ce passé de 1925.
C'est-à-dire le passé de Monsieur Mon Passé?
Oui.
Dans la tête un vieux banjo de 1925, un vieux banjo qui se grattait le dos en regardant Chaplin dans un cinoche où il y avait de la brebis qui s'effiloche dans les fouilles. Ah, samedi, ce banjo-là donnait le la de 1925, mais ce la-là n'était plus là, il n'y avait même plus Chaplin dans le vieux ciné où je suis repassé comme les souvenirs qui veulent rien dire, comme disait rien le ciné muet, qui est comme les chiens, mais qui causait. Monsieur mon passé, voulez-vous passer? J'ai comme une envie d'oublier ma vie. Si j'avais à faire ma vie à l'envers, c'est vous mon passé qui me verriez repasser. J'ai dans la tête un vieux guignol de 1925, un vieux guignol où pour deux sols on jouait des tas de machins dans un tricmuche où il y avait pas de vertu et de la paluche. En voilà, en veux-tu, ce vieux guignol où ma parole en 1925 on faisait joujou en entresol, histoire de prendre du grain, a disparu au fond de ma rue comme disparaît tout mon passé, comme passé là les vieilles passions pour faire la place à ma chanson. Monsieur mon passé, laissez-moi passer. J'ai comme un rancard qui me rend bizarre, comme les gens pressés qui veulent pas causer. Pour pas faire d'histoire, on changera de trottoir. J'ai dans la tête un je ne sais plus de 1925, un je ne sais plus qui continue à faire tourner le moulin dans le bric-à-brac où se fabriquent les idées qui font des couacs chaque fois qu'on veut se rappeler ce je ne sais plus qui vous a plu en 1925 et qui n'est plus qu'une fleur perdue parmi les tas de chagrins d'un vieux passé qui est pas passé malgré le banjo qui se gratte le dos et puis le guignol où ma parole on venait paumer ces belles années. Monsieur mon passé faudrait bien passer. J'ai comme une envie d'aller faire ma vie. Guignol ou banjo, je te ferai bien la peau. Je suis peut-être qu'une cigale, mais je t'emmène au bal.
Quittons le passé et revenons tout de suite dans le présent. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, le dimanche, Léo Ferré?
Quand je ne suis pas à votre émission...
Oui, je vous ai gâché votre journée, avouez-le.
Non, non, pas gâché ma journée, non. Quand je ne suis pas à votre émission, je vais en Normandie, oui. À 115 km de Paris, à Verneuil-sur-Avre, oui. Où j'ai loué une maison il y a 2 ans. Voilà comment ça s'est passé. J'ai lu des annonces pendant 1 an sur un journal qui ne me plaît pas du tout, d'ailleurs, que je ne lis jamais, mais que j'ai lu pendant 1 an. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Pour voir des annonces. Et ma femme se moquait de moi. Un beau jour, j'ai trouvé une annonce, j'ai trouvé une maison. On est allé, j'ai vu le propriétaire, il était gentil, il est devenu mon ami, et entre-temps aussi, il est devenu mon tailleur.
C'est très, voilà. C'est incroyable comme histoire. Et cette maison, je crois que c'est une maison qui a un souvenir, un passé historique chargé et lourd.
lourd. Enfin, je ne sais pas, remarquez que peut-être on raconte beaucoup d'histoires, mais je crois que cette maison a été habitée il y a quelques décades par Louise Collet, n'est-ce pas? Louise Collet qui était une femme...
Une égérie,
oui, et paraît-il, n'est-ce pas? Elle aurait été à un certain moment l'égérie de Victor Hugo.
Oui, de Flaubert, on a dit aussi,
la maîtresse,
je crois.
Oui.
Et alors Victor Hugo serait peut-être venu passer quelques jours dans ces lieux.
Et quelques jours, parce que à ce moment-là, je crois que maintenant, il y avait 1h30 là-bas, sur une puissante voiture. Mais je crois que 2 jours, on mettait.
Et vous mettez Courteline aussi.
Oui, Courteline a habité là quelques temps.
Ça va pas du tout avec Victor Hugo, d'ailleurs.
Non, mais au contraire, moi, je trouve ça très marrant.
Et quel est le style de cette maison? C'est une maison que vous avez laissée comme elle était, enfin.
Oui, moi, je n'y ai pas touché. Ce sont mes propriétaires qui y ont touché, qui l'ont rafistolé un peu. Et c'est une espèce de genre de manoir. Pavillon de chasse, sans le confort.
Et je crois que vous l'avez choisi surtout pour vos chiens. Vous passiez après dans cette histoire, car vous menez un petit peu une vie de chien. Tout ce que vous le faites en fonction de vos chiens.
Oui.
Il faut dire que vous avez 3 Saint-Bernard.
Oui, mais je les adore, on les adore. Les chiens, pour nous, c'est à la maison, c'est notre vie, n'est-ce pas? Les chiens passent avant tout. Et je voudrais que tous les gens soient comme moi, parce qu'on trouve beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur à voir vivre les bêtes qui, heureusement, ne parlent pas. Ça, c'est le grand truc des bêtes.
Mais ils sont expressifs. Vous avez expressif ne serait-ce que par le poids. Vous avez un de vos Saint-Bernard qui a pesé plus de 100 kilos, m'avez-vous dit?
Oui, il va peser actuellement 100 kilos à peu près, ou 95.
Mais ils sont inoffensifs, ils sont très gentils.
Ils sont très gentils, sauf la nuit.
Oui.
Il y a terreur psychologique, c'est pas...
Ah oui.
Ils ont un aboiement assez considérable.
Et là-bas, est-ce qu'ils sont à leur aise dans cette maison?
Très, parce qu'ils ont 10 hectares de...
Brilleux. Et vous les faites courir partout?
Non, ils ne courent pas seuls, parce que je suis obligé d'aller les promener là-bas aussi. Vous comprenez? Et ce sont des chiens qui aiment la compagnie. Alors j'étais content d'avoir tous ces 10 hectares de bois autour de la maison, et puis je suis obligé, moi aussi, d'aller promener avec les chiens. Mais c'est bien quand même.
Qu'est-ce que vous faites quand vous vous promenez? Je crois que vous avez une passion, d'ailleurs, c'est de chercher des trésors, non?
Oui, je voudrais bien chercher un trésor. Justement, dans cette propriété, il y avait un trou. Un jour, j'ai été qui commence à me creuser, il doit y avoir un trésor. Et là, ce trou, je l'ai appris par quelqu'un, c'était une espèce de tranchée qu'on avait fait pendant la guerre contre les avions.
Vous n'avez jamais trouvé de trésor, mais vous en avez cherché même dans les ruisseaux, vous aviez trouvé des paillettes.
Non, moi je suis sûr, oui, des paillettes à la montagne, ça.
À la montagne.
Mais je suis sûr qu'il y a des trésors partout. Je suis sûr qu'il y a des trésors là-dessous.
Et ça vous amuse de chercher un trésor là-dessous, même sous le studio, vous voyez.
Sûrement.
Et vous avez même un coffre-fort dans
des
votre maison.
Des louis d'or, des pierreries. Je rêve de trouver un tonneau, vous savez, un tonneau plein
de pierreries,
comme dans les films de Cécile Bedemil.
Les films de Cécile Bedemil. Et vous avez même un coffre-fort que vous n'avez jamais réussi à ouvrir dans cette maison de Louise Collet.
Non, mais il ne faut pas trop en parler, comme disait Madeleine tout à l'heure, parce que si on parle du coffre-fort, va inciter les
cambrioleurs.
Les cambrioleurs à venir. Mais il y a les chiens, ils sont bien reçus.
Oui, j'ai l'impression. Avec ces 3 gros chiens, moi j'ai eu très peur en venant chez vous. Et je crois qu'il n'y a pas le confort non plus du tout dans cette maison.
Non, mais il y a un puits à 10 mètres, et moi je trouve ça très bien.
Ça vous suffit, vous n'êtes pas pour le confort.
Non. Non, je suis pour le confort, mais enfin, quand il n'y est pas, je m'en arrange.
Oui, mais au fond, vous ne nous arrangez pas tellement de la vie moderne et de la vie, le temps des plastiques, vous voyez ce que je veux dire.
Oui,
vous ne vous en arrangez pas tellement.
Et non, mais ça m'a permis de faire une chance.
Exactement.
Si l'on mettait le temps du plastique en musique, zic, zic, on y perdrait son temps de temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux en plastique, bien plus économique, mique, et bien plus intéressant que les diamants que l'on pend au cou des gens, car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, tic, tic, on y voit le printemps passer son temps à faire des fleurs en papier. Si l'on mettait le temps des pin-up au pique, pé-up, on y gagnerait son temps et son argent tout en y perdant niette, à part le chouette, mais le chouette tu le repeuples. En revirant en pick-up et up et up, sans avoir à causer à ces pépés qui font pitié, car le temps des pin-up passera, et puis up, puis up, puis up, ces pin-up que l'on pique et up sur les murs des maisons des cons, des cons. si l'on mettait le temps des fanfares à la gare, 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 on perdrait pas son temps de temps sans temps, et l'on y gagnerait de quoi se faire bien la joie, car mieux vaut une guitare que les sonneries de la gloire, war, war, et que les salons cossus du connu où l'on se file les potins et le popotin, car le temps des fanfares ça s'en va d'art, 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 on y voit des académiques crever comme tous les hommes. Si l'on mettait le temps des pin-up à la gare et les fanfares au plastique et puis hop, on serait peinard, il n'est peut-être pas trop tard, 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 trop tard.
Je crois qu'à Paris, vous n'êtes pas au milieu des plastiques et que vous avez choisi une petite maison bien ancienne, une bonne petite vieille maison.
Je n'ai pas choisi une maison bien ancienne, j'ai choisi une maison qui fait partie de la zone verte. C'est-à-dire, ça c'est le mot
verte, il faut l'enlever, poli
pour peut-être. Dire, oui, il faut dire la zone.
La zone tout court.
On oui. appelle ça ceinture verte.
La ceinture verte.
C'est oui. la zone, n'est-ce pas, au milieu des garages. La seule chose désagréable qui est, c'est qu'il y a vraiment, il doit passer, je ne sais pas, 4 ou 5 000 voitures par jour devant la maison.
Oui.
Ça c'est embêtant. Enfin, on s'y fait. C'est l'exproprié. Un de ces jours, on va nous mettre à la porte.
Et où irez-vous, là? Il y a une petite maison dont on parlait hier. Elle serait peut-être bien dans le bois de Boulogne.
Ah oui, vous l'avez vue.
Oui, elle est extraordinaire.
Elle est toujours fermée, d'ailleurs. Elle est habitée par l'Américain.
Oui, mais non, je crois que c'est la maison d'un garde forestier, mais il ne doit plus y avoir de garde forestier.
Ah, celle-là, celle du garde.
Ah, je pense à la maison du garde.
Ah, mais celle du garde est habitée. Il y a des poules,
oui,
des chiens.
Ça,
il prend les chiens en pension, d'ailleurs. Et oui, j'aimerais bien, là, évidemment.
Ah, très bien, oui.
Je ferais un peu garde de temps en temps, là, pour
c'est
habiter
ça,
la maison du gardien. Non, sans costume, je ferais travailler quelqu'un, quoi. Mais ce serait bien, ça.
Mais le métier est agréable.
Le métier est agréable, sûrement. Je les vois, ils se foulent pas trop, c'est bien, parfait.
Et puis pour vos chiens, ça serait agréable, parce que pour vos chiens, il faut que vous habitiez toujours près d'un lieu où il y ait de la verdure.
Oui, mais les chiens ont leur petite nurse, qui est notre Denise, qui les promène tous les jours, le matin et le soir, et c'est moi qui les accompagne en voiture, qui les cherche, parce qu'il y en a trois, ils sont gros et trop petites pour les traverser.
C'est pour ça que vous avez une voiture avec un grand coffre arrière, enfin c'est pas un coffre.
C'est pas un coffre, c'est un wagon.
C'est un wagon. Vous êtes obligé d'avoir une voiture comme ça pour vos chiens.
Eh oui.
Vous êtes toujours posé la question. Qu'est-ce que vous aimez avoir chez vous comme installation, un mobilier? C'est très hétéroclite, hein, vous aimez...
C'est très hétéroclite chez moi, hein.
Oui, mais j'aime
ça,
moi.
Vous m'avez pas dit l'autre
vous
jour.
Vous m'avez pas dit, non, je vous le dis tout d'un coup, là.
Oui, c'est hétéroclite parce qu'on a des choses comme ça, qu'on a eu par hasard, et puis depuis qu'on gagne un peu plus d'argent qu'avant,
oui.
De temps en temps, on achète des choses qui nous plaisent, alors c'est aussi bien la Renaissance que... Non, ça s'arrête à la Renaissance, mais,
oui.
La haute époque, mais le 18e, ça, j'ai horreur de ça, ma femme aussi, alors on s'en arrange. Jusqu'à beau, n'importe quoi, enfin. C'est très moche, n'est-ce pas?
Ah non, hein? Non, c'est pas moche.
Pas beaucoup de goût, pas beaucoup. Le mauvais goût, mais le mauvais goût, c'est très bien. Oui.
Vous avez des aquarelles au mur qui sont tout à fait extraordinaires, qui, elles aussi, ont une histoire absolument invraisemblable.
Oui, je dois à André Breton un jour d'avoir trouvé ces aquarelles à la salle des ventes de la
Drouot,
oui. Et c'est un teinturier sur cuir qui a vécu en Autriche à la fin du siècle, au 19e siècle, et qui pendant 50 ans, c'était un peu un peintre du dimanche,
oui.
il flânait à sa façon, voyez-vous, et il a fait 350 ou 400 aquarelles. C'est quelque chose, je crois que c'est le plus grand animalier qu'on ait vu, et puis alors, en plus, dans ses paysages, c'est une préfiguration du doyen Rousseau. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, pas connu du tout, que tout le monde s'en fout, mais ça fait rien.
Et puis alors, c'est de l'art involontaire, parce que lui, il faisait des planches vraiment... d'histoire naturelle, il ne pensait certainement pas faire de l'art.
Je ne sais pas, en tout cas, malgré lui, parce que quand il met les paysages...
Les couleurs sont magnifiques.
Les paysages, il y a une espèce de tristesse, je sais pas, c'est pas mal. Quoi, non?
Est-ce que vous êtes comme ce teinturier? Est-ce que vous avez un violon dingue?
Moi, un musicien a toujours un violon dingue. Oui.
Oui.
Mais c'est l'imprimerie.
Oui, c'est assez surprenant, mais c'est l'imprimerie. C'est encombrant, vous avez toute une machinerie.
Non, c'est pas encombrant, mais c'est sale.
C'est sale, oui.
Oui, parce que l'encre, c'est quelque chose de terrible.
Et alors, toutes ces chansons que vous avez là, d'ailleurs, c'est vous-même qui les avez tirées.
Oui. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, quand on voyait une de mes chansons, j'avais oublié les bécards. Alors, comme c'est tiré à 200 exemplaires, maintenant, il va falloir que je corrige 200 exemplaires avec des bécards, voyez-vous. C'est un peu le drame de l'imprimerie à la maison, ça aussi, oui.
Et bientôt, vous allez pouvoir faire des choses très compliquées en imprimerie. Là, parce que pour l'instant, c'est encore en une couleur, mais vous tirerez en plusieurs couleurs?
Oui, ce qu'on appelle la quadricromie.
C'est ça.
Mais sûrement.
Vous ne reculez devant rien.
Oui, en quelques années.
Quand vous n'êtes pas dans votre maison à Paris ou dans votre maison de Normandie, je crois que vous avez un troisième lieu de séjour, de vacances à ce moment-là.
L'été, nous avons un chalet, nous avons loué un chalet de vaches à 1200, à 2600 mètres.
Ah oui, c'est très haut déjà.
Au-dessus de Modane, près de la frontière italienne.
Et là encore pour les chiens, non?
C'est formidable, jamais un copain n'est monté nous voir là-haut. Il faut croire qu'on ne nous aime pas beaucoup. Mais c'est un peu haut, ils ont peur d'avoir mal au cœur, ce qui est idiot parce que l'altitude ne fait rien à faire. Moi j'ai ma petite fille qui vient, on monte prendre les Edelweiss à 3000. Et vous savez que les Edelweiss, il ne faut pas se casser la gueule pour voir les Edelweiss.
Ça, non, il y a des crevasses et il y a des avalanches.
Non, c'est pas vrai du tout. Il y a de beaux champs d'Edelweiss, vous cueillez ça comme des poireaux. Il faut le dire aussi parce qu'on raconte beaucoup d'histoires.
Beaucoup de poésie, mais c'est plus simple que ça.
Les héros de l'Edelweiss, n'est-ce pas?
Et là-haut, alors, vous n'y allez pas en voiture, vous y allez sac à dos?
On va en voiture jusqu'au village, et puis sac à dos, mais alors c'est un vrai Golgotha.
Oui.
Le vrai Golgotha, vous savez qu'il y avait 400 mètres.
Oui.
Le Golgotha de l'an 1, n'est-ce pas? Mais l'autre, de l'an 33, pardon. Celui de là-haut, c'est terrible parce qu'il y a une dénivellation terrible. On monte de 1800 à 2006, et ça en peu de kilomètres, quoi, parce qu'en montagne, on ne compte pas avec les kilomètres.
Et vos chiens sont heureux là-haut?
Oui,
parce que les Saint-Bernard, ils se retrouvent chez eux.
Oui, comme dit Madeleine, et ça c'est vrai, ils sont lyriques. Arrivés là-haut à 2000-2002, au moment où il n'y a plus d'arbres, n'est-ce pas? Ils sont lyriques, et ils sont comme un fou un peu, quoi.
Est-ce qu'ils ne sont pas malheureux de n'avoir personne à sauver?
Ah, mais si vous mettez par terre, ils viennent vous prendre gentiment comme ça. Ils veulent vous tirer, n'est-ce pas? Je crois que c'est ce qui leur reste, espèce de truc de sauver les gens.
Je crois que vous m'avez dit, lorsque vous les emmenez au bord de la mer, à ce moment-là, ils se mettent à sauver tout le monde.
Non, et puis alors, ils se perdent aussi, car l'année dernière, nous étions en Bretagne, où le... ils étaient sur un rocher, et la nuit, il y avait la marée qui avait monté, ils ont été prisonniers sur le rocher, n'est-ce pas? Alors on avait la trouille, parce que sans des Saint-Bernard, on avait peur qu'ils nagent pas, ils ont nagé comme un seul chien, ils sont revenus, c'était formidable.
Et vous leur avez donné une goutte de cognac ensuite, après, non?
Non, non.
Est-ce que vous aimez les voyages?
Non.
Non? En dehors de vos maisons où vous allez chaque année, vous retournez toujours au même endroit.
Je retourne toujours au même endroit, mais je n'aime pas les voyages.
Mais vous aimez les ports, je crois. C'est-à-dire que vous aimez l'invitation au voyage.
Oui, j'aime les voyages quand c'est très près, quand il y a un dépaysement à proximité, vous comprenez? Ça me plaît alors.
Oui, alors ça, je vois le genre de dépaysement que vous aimez, car il y a un pays dont vous m'avez beaucoup parlé. Vous en avez visité plusieurs, mais il y en a un qui vous a beaucoup frappé. Et on pourrait peut-être s'embarquer pour ce pays par le Havre, grâce aux amoureux du Havre.
Si vous voulez.
Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer, et les bateaux se navrent d'être toujours seuls sur la mer. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas. Mon amour, t'en fais pas. Les enfants de la terre se fichent du bon Dieu. Ils s'aiment sans s'en faire, comme s'aiment les amoureux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas. Mon amour, t'en fais pas. J'irai en Angleterre pour voir les grands bateaux qui font le tour de la terre comme le font les petits oiseaux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde, puisque la terre est ronde. Mon amour, t'en fais pas. Mon amour, t'en fais pas. La 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 la.
Ça m'amuse, je la chante jamais. Et puis, j'ai jamais fait de disque. cette chanson. Pour deux raisons. Cette chanson m'avait été commandée plus ou moins, vous allez voir pourquoi. J'avais connu à Saint-Germain-des-Prés un acteur de cinéma qui avait joué dans Rambu ouverte, qui s'appelait Palière, ou Martial Palière, qui est un bon acteur. Je ne sais pas si c'est un metteur en scène fameux. Mais alors il m'a dit, Léo, tu fais, voilà, j'ai fait un film, monsieur, qui se passe au Havre, et qui est ça, une histoire d'amour, pas loin du Havre. Tu fais la musique, j'ai dit, tout de suite, 3, 4, 10 musiques, moi je connais tout ce que tu veux, à ce moment-là. C'est qu'en 49, à Saint-Germain-des-Prés, c'est pas la joie, hein. Quand on dit maintenant dans les trucs, là, toutes les conneries que vous lisez dans les machins, c'est pas vrai tout ça. Hein? Ça j'ai mis des presses, c'était la mienne pour les gens comme nous, quoi, en tout cas. Alors, je dis, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que. Alors, je dis, et la nuit, pour lui faire plaisir, pas, ou la nuit ou le lendemain, j'écris cette chanson. Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer. Je me disais, tiens, c'est un film, ils ne sont pas loin du Havre, c'est la mer, tout ça. Hein? Pas, je chante ça, vous connaissez les Italiens, il me dit, Léo, que génial, que musiciste, ah, magnifique. Et je l'ai vu de moins en moins. Alors, je m'étais rendu compte qu'il traversait, le boulevard Saint-Germain, et il avait l'air de traverser comme il voyait. Mais j'étais pas tellement sûr. Alors un jour, j'ai voulu m'en assurer vraiment, et je suis allé derrière une librairie, il y en a pas mal là, et puis j'ai déboulé au dernier moment, à 2 mètres de lui. Alors il a vu que je l'ai vu, Hein. Il a traversé quand même. Ah. Alors moi je suis jamais un qui traverse la rue comme une bourre, hein, forcément. Et voilà, c'est tout. Un an après, j'ai entendu parler d'un film, je ne sais plus comment il s'appelait, et c'était le film en piston qui se passait pas loin du Havre. Et la ferme avait été piquée par la musique, un guitariste que je connaissais, qui était un accompagnateur d'un grand chanteur. Voilà, c'est une chose qui arrive, ça. Les gens qui font des affaires comme ça, qui font dans les bistrots, comme ça, tout ça. Enfin, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais donner cette chanson, je vais donner quelques temps après à l'éditeur, parce que, je dois vous dire, qui était l'éditeur, c'était un type qui m'avait donné un peu d'argent, parce que comme ça, je mangeais 2-3 fois de plus, quoi, enfin, des cigarettes, tout ça. Et alors, il m'est arrivé que qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, j'ai réfléchi là-dessus. Je me suis dit, les gens qui me font quelque chose, ils meurent. Le guitariste, il est mort. L'acteur italien, il est mort. Et en 69, il y avait j'étais à Bobino, et dans la loge, j'ai voulu voir ce éditeur qui était un amant, un sympathique, grand, tout ça, il avait une tête un peu longue, comme ça. Je le vois rentrer dans la loge, un type qui était gros comme ce pied de micro, là, et puis sa tête, elle avait encore allongée, comme ça. Ah, si j'ai eu, c'est du talent, hein. Alors, j'ai dit, il arrive, il me dit, bonjour, ça va? J'ai dit, oui, bonjour, Rob, ça va? Très bien. Il est mort aussi. Deuxième raison pour laquelle je chante pas cette chanson, c'est parce qu'elle a été chantée par un chanteur américain, qui après est venu en France, chanteur, il s'est mis chanteur, et puis après il a fait des cinéma. Et parce qu'on appartenait, j'appartenais à la même maison que lui. Faites attention, quand je dis appartenir à une maison pour un chanteur, à une maison de disques, je vais vous faire. On n'a pas besoin de parler. Ça, rappelez-vous que c'est ça, appartenir à une maison de disque. Léo a fait ça, il fait le con en scène, mais après quand il dit des choses vraies des fois. Hein. Bon. Alors, je dis, voilà. Cet acteur, il s'appelait, je l'avais connu chez Piaf, à la table de Piaf, et après lui, il était resté dans le lit. Moi j'étais parti parce que et puis c'est vrai, il s'appelait Eddie Constantin. Alors je reçois le disque de chez la maison Barclay, et qu'est-ce que j'entends? Le deuxième couplet à moi, humblement, mon deuxième couplet faisait comme ça. Les enfants de la terre se fichent du bon Dieu. Alors qu'est-ce que j'entends? Par l'américain question. Les enfants de la terre sont faits par le bon Dieu. Puis je sais pas si c'est mort ou si c'est tout comme.
Pourquoi aimez-vous tellement l'Angleterre, Léo Ferré? Puisque nous sommes embarqués maintenant par le Havre, nous avons débarqué, mettons tout de suite à Londres, en sautant les obstacles.
J'aime beaucoup l'Angleterre, et ça je vous dis vraiment la vérité, parce que c'est un dépaysement total à 2 heures de train de Paris, 2 heures de train avec le bateau, quoi.
Oui, parce que
et
le
parce
train,
que les Anglais, je reviens, je m'excuse.
Oui.
Je reviens toujours sur la
question. Vous avez pris froid en Angleterre, oui, tout de suite.
Les Anglais aiment beaucoup, et particulièrement, et tous, dans la rue, dans le métro, partout, les chiens. Voilà.
Ah oui, alors ça, on retrouve toujours votre amour des animaux. Et d'ailleurs, la Société Protectrice des Animaux Anglais, c'est quelque chose de très puissant. Hein.
Ça, oui, c'est beaucoup plus puissante qu'ici.
Et vous avez été frappé par des tas de choses en Angleterre pour les chiens, d'ailleurs. On leur donne à boire, ils ont des fontaines spéciales, ils ont des descentes spéciales dans le métro.
Oui,
ils
des descentes spéciales dans le métro, car l'escalier automatique risque de leur prendre les pattes, vous voyez, si on pense bien aux chiens là-bas. Et un jour, nous avions acheté un chien là-bas, qu'on a perdu d'ailleurs. Ma femme s'est vue offrir la place par quelqu'un dans le métro, quelqu'un qui voulait lui donner la place pour le chien. Je vous jure que c'est vrai. Eh bien, ça, c'est pas mal.
Oui, oui, ça, je vous reconnais.
Le chien s'appelait Samy.
Mais je crois que vous aimez l'Angleterre encore pour des tas d'autres raisons. Je crois que vous aimez Londres pour cette atmosphère de port, enfin, pour l'ambiance de l'Angleterre, les brumes et tout ça.
Oui.
Et vous n'avez...
Oui, la Tamise, les ports, c'est gigantesque, c'est extraordinaire. Les ports, ça j'aime beaucoup. Ça fait penser au voyage, mais on part pas, on regarde.
Vous avez été visiter d'ailleurs un lieu typiquement anglais, sinistre, mais certainement très beau, je ne le connais pas. C'est là où Emily Bronte a songé, où les sœurs Bronte ont songé aux Hauts-du-Hurlevent, où ils ont vécu, je crois, d'ailleurs.
Mais elles ont vécu pas trop loin des Hauts-du-Hurlevent. Nous sommes allés là-bas 2 fois en 10 jours. C'est un paysage extraordinaire, vraiment, avec des bruyères. Et le vent hurle littéralement, vraiment, et ça fait très peur. Mais c'est merveilleux. Et je pense que... on m'a dit que le film des Hauts-du-Hurlevent, qui était un film admirable, avait été tourné en studio. Je le regrette.
Oui, mais ça, c'est souvent comme ça. Vous savez, en général, on tourne toujours tout à côté des endroits les plus beaux.
Eh oui, c'est toujours comme ça.
Et sur l'Angleterre, qui vous a décidément inspiré beaucoup, un poème que nous pourrions extraire maintenant de Poète vos papiers, et que Madeleine Ferré, qui est venue ce soir, pourrait nous lire.
Ces chevaux du roi qui brûlaient leur avoine en devisant communément sur le derby. À Buckingham Palace fumaient les vieux havanes que les docks déployaient sur Londres sans peigner. Archanges des steamers, où sont donc les savanes de ces chevaux du roi qui brûlaient leur avoine? À Charing Cross, tous les cargos faisaient relâche et dématés leurs souvenirs avaient un goût de miel mêlé au tabac gros et lourd qu'arrachent les poumons des marins humains, je ne sais d'où. Archange, tu roulais alors d'étranges bâches sur Charing Cross où les cargos faisaient relâche.
Dans l'ambiance de l'Angleterre, nous pourrions peut-être maintenant passer une de vos nouvelles chansons, puisque j'en parlais tout à l'heure. Vous avez profité de votre séjour dans votre maison normande, qui vous inspire décidément beaucoup, et inspiré par Victor Hugo et d'autres poètes, c'est Baudelaire qui vous a séduit là-bas.
Oui, mais je ne crois pas qu'une maison ou un paysage inspire particulièrement un poète ou un musicien. Je pense qu'il trouve un endroit peut-être favorable au travail, c'est pas, parce qu'au fond, je travaille aussi bien dans le bruit de Paris, vous savez. Mais là-bas, évidemment, c'est tellement calme qu'on a peur du silence, alors je fais beaucoup de bruit avec le piano.
Et vous avez composé, sur un poème de Baudelaire, Brumes et pluies, une chanson nouvelle qui est parmi 12 nouvelles chansons sur les poèmes de Baudelaire.
Oui.
Bien, nous allons écouter maintenant cette chanson avec un accompagnement d'Onde Martenot.
Baudelaire, au fin d'automne-hiver, brumes et pluies. Au fin d'automne-hiver, printemps trempé de boue, en dormeuse saison, je vous aime et vous d'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau d'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau dans cette grande plaine où l'automne froid se joue, où par les longues nuits la girouette s'enroue. Mon âme mieux qu'au temps du tiède renouveau ouvrira largement ses ailes de corbeau. Oui, viens avec moi. Rien n'est plus doux au cœur, plein de choses funèbres et sûr qui dès longtemps descendent les frimas au blafard de saison, reine de nos climats, que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres, si ce n'est par un soir sans lune, deux à deux, d'endormir la douleur sur un lit hasardeux. On dormira la douleur sur un lit hasardeux et puis on reviendra plus.
Il n'y a pas photo, hein, la version TLP, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Vous avez composé parmi d'autres chansons sur les poèmes de Baudelaire un poème, une chanson sur les hiboux de Baudelaire. Je crois d'ailleurs que les hiboux ont joué un rôle dans votre vie.
Oui, nous avons eu un hibou l'année dernière, deux mois, il est mort. Malheureusement, car les hiboux sont des petits animaux d'exception, vraiment, au contraire de ce que les gens pensent.
Et ce hibou était tout à fait apprivoisé, je crois qu'il vivait enfin avec vous comme un chat.
Comme un chat, exactement. C'était la terreur des chiens, car les chiens avaient peur du hibou.
Et vous le nourrissiez facilement, c'était pas trop difficile?
Très difficile, on n'avait pas de souris vivante pour lui donner, c'est de quoi il est mort d'ailleurs, car il ne il pouvait plus... ce phénomène de déglutition, de physiologie.
Et vous regrettez votre hibou. Mais je crois que nous allons revenir d'Angleterre et nous allons faire d'autres voyages une autre fois. Nous aurions des tas d'autres sujets aujourd'hui. Seulement, nous sommes un petit peu courts de temps puisque nous avions les flâneries de Rome. Et j'aurais aimé vous faire parler de vos lectures. Par exemple, je crois que vous aimez passionnément lire les dictionnaires, les encyclopédies, les livres de Buffon, La vie des abeilles, des ouvrages...
Buffon, grand génie, Buffon, très grand génie.
Nous pourrions faire toute une émission là-dessus. Mais nous allons terminer par un dernier voyage, encore un voyage inspiré par un port, par Marseille cette fois-ci. C'est encore une nouvelle chanson, je crois.
C'est un voyage en chanson. Java partout. Rien que des grues qui font le pied de grue sur les deux coups, les quais. Si t'as pas ton ticket, t'as plus qu'à te foutre qu'une tringle. Pour danser la Java des buffets à l'endroit, à l'envers, à l'endroit bien envers, pas besoin d'être bilingue. Mais y'a qu'une manière de causer ma chère.
La moitié.
Vieux mouton d'Australie, beau matelas de Paris, fil ta laine. À Marseille à midi, un cargo m'a souri pour la semaine. Il s'en va à Java. Dans les bars de Java, les bars de Zanzibar, au feu de la rue chez moi, y a de la Java qui mousse. Dans les yeux des inconnus qui tanguent dans la rue, il y a des filles nues qui s'y regardent en douce. Mais y'a qu'une manière de passer ma chère. Les chitocs, les ricains, les frisés, les bouquins, ils t'attunent. À Marseille, sur le quai, y a une fille qui s'ouvrait sous la lune. C'est comme ça, la Java. Rien
gang des faunes qui font les manchots dans les bois tous en boîte, en pilule ou en ouate, des anchois de la musique. Et ces faunes au vrai ou faux, ça va jusqu'au moment où ça ne va plus, car il faut ça pour faire la mécanique. Et puis la manière de glisser, ma chère, à la volée. Paris à Mimi qui a remis son pinson dans le commerce pour jouer la Java, la Java.
Marseille demain matin.
Merci Léo Ferré, merci Louis Guy aussi d'être venu.
Prenez soin de vous, prenez soin d'elle. À la semaine prochaine.
Et bonsoir. Bonsoir Léo Ferré. Bonsoir.
C'est la fin du Ferré Club.
C'était transmis en direct du studio 26, le Flâneur du Dimanche, une émission de Michel Pollack présentée par l'auteur, mise en onde par René Jantet avec la collaboration de Jacques Vaudou. Prise de son Marcel Ostalier. Ce soir, les flâneries de Léo Ferré, accompagnés par Jean Cardon, Barthélémy Rosso, Freddy Valta et avec Madeleine Ferré.
Rendez-vous dimanche prochain à Tahiti.
À la semaine prochaine.